un ciel nouveau et une terre nouvelle. » Chers frères et sœurs, ce sont des paroles étonnantes que l'auteur du livre de l'Apocalypse adresse vers la fin du premier siècle aux chrétiens qui vivaient comme minorité dans la province romaine d'Asie mineure. Ils sont exposés à des pressions sociales, religieuses, économiques, puisqu'ils refusent d'abjurer leur foi chrétienne en faveur du culte pseudo-religieux de l'empereur romain. La tentation est grande de se laisser séduire par la perspective d'une prospérité économique et le système marchand impérial qui met sa marque sur le front des gens. Ils doivent résister à la tentation de perdre leur premier amour et de devenir tièdes dans leur foi, de se reposer sur un soi-disant bien-être, je suis riche, je ne manque de rien. La fidélité dans la foi chrétienne a un prix, la dénonciation, le déclassement social, le martyre. Mais le visionnaire de l'Apocalypse, qui est identifié à Saint Jean, ouvre aux chrétiens fidèles une perspective d'espérance. Malgré les pressions de l'extérieur et aussi les conflits dans les communautés, il y a un avenir, en deux mots, un avenir différent qui changera radicalement la situation. J'ai vu un ciel nouveau, une terre nouvelle. Fini les larmes, la mort, fini les pleurs, la douleur, la tristesse. Soyez donc courageux, voici que je fais toute chose nouvelle. La promesse de cet avenir est comme un bouleversement cosmique. Le premier ciel et la première terre s'en étaient allés. Et même la mer, le symbole par excellence de la noyade mortelle, toujours menaçante, aura disparu. Cela nous renvoie au récit biblique de la création, au moment insondable quand Dieu sépara la terre ferme de la masse des eaux. Et Dieu vit que cela était bon. Il vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était bon. Oui, l'harmonie entre Dieu et ses créatures était belle et parfaite. Et pourtant, nous faisons jour après jour comme les chrétiens auxquels le visionnaire s'adresse, l'expérience que le monde actuel est plein de larmes et de pleurs, de destruction, de mort, de violence, de guerres insensées, de catastrophes issues de l'orgueil humain. C'est comme s'il y avait une fissure entre ce beau projet de Dieu et l'humanité exilée dans cette vallée des larmes. C'est comme si un soupçon fondamental met en ruine l'alliance d'amour que Dieu avait proposée à sa créature, une blessure par jalousie et haine qui affecte notre univers, qui nous traverse aussi à l'intérieur et qui semble ne pas vouloir guérir. Il est vrai, tout au long de l'histoire biblique, les prophètes ont rappelé au peuple élu la voix de l'Alliance, la présence aimante de Dieu, exactement avec les mêmes mots que nous avons entendus du visionnaire de l'Apocalypse. Le prophète Isaïe 65 dit « Oui, voici, je vais créer un ciel nouveau et une terre nouvelle. On ne se souviendra plus du passé. » Il ne reviendra plus à l'esprit. Soyez plutôt dans la joie, exultez sans fin pour ce que je crée. car je vais créer Jérusalem pour qu'elle soit exultation et que son peuple devienne joie. On n'y entendra plus de pleurs et de cris. Là, plus de nourrissons emportés en quelques jours, ni d'hommes qui ne parviennent au bout de sa vieillesse. Et nous avons entendu notre lecture du livre de l'Apocalypse a repris les mêmes images. La victoire sur notre forme de mal, sur toute forme de mal, est proclamée. Le visionnaire voit la Jérusalem nouvelle qui descendait du ciel auprès de Dieu. La nouvelle Jérusalem, c'est une ville ouverte, une ville de paix. Elle est immense, mais non identifiable à aucune ville dans le monde. En réalité, cette nouvelle Jérusalem, c'est toute l'humanité et la création réconciliée avec Dieu. L'alliance entre Dieu et l'humanité sera rétablie. L'humanité sera prête pour les noces comme une épouse parée pour son mari. L'humanité devient demeure de Dieu avec les hommes. Cela nous rappelle Noël. Nous l'avons entendu à Noël. Dieu a planté sa tente parmi nous en son Verbe qui s'est fait chair. Et Dieu s'appelle désormais Dieu avec nous. Emmanuel. C'est le message de l'espérance depuis le trône de Dieu, la nouvelle Jérusalem, c'est-à-dire la proximité de Dieu dans son Fils Jésus-Christ. Il nous est proche jusqu'au tréfonds de notre humanité, aussi dans les douleurs indicibles de la destruction et de la mort. Quand je préparais cette homilie, c'était le 8 mai, j'entendais la nouvelle que, sous une autre bombe encore de l'armée russe, une école en Ukraine de l'Est a été détruite et il y avait 60 morts. Je me suis posé la question, qu'est-ce que je peux dire encore? La mort ne sera plus. Dieu va-t-il vraiment essuyer les larmes des yeux des survivants qui pleurent leurs proches, enfants, parents, grands-parents? Nous ne pouvons pas désespérer. Nous sommes invités à croire, malgré tout, en un Dieu qui nous a manifesté son amour dans son Fils, dans ce Fils de l'homme, qui nous donne aujourd'hui, toujours, un commandement nouveau. Et il le donne juste avant sa mort, à un moment très précis, quand Judas fut sorti du cénacle, c'est-à-dire quand la confiance de Jésus a été trahie par un de ses disciples. Et il donne ce commandement nouveau à un moment où il a montré lui-même en lavant les pieds de ses disciples, qu'il est venu pour manifester une nouvelle qualité d'amour qui s'exprime dans l'humilité et le service. Ce don de soi, jusque dans la mort, sur la croix, est pour Jésus, dit notre texte, un moment de gloire, expression de sa relation entre le Père et le Fils. En suivant ce commandement, nous sommes, en tant que chrétiens, intégrés par la foi et la grâce de l'Esprit dans cette même gloire, c'est-à-dire dans une nouvelle relation entre le Père et le Fils. C'est pourquoi ce commandement nouveau, c'est le gage, la voie de l'espérance au milieu des détresses. Et c'est surtout une nouvelle dignité conférée une fois pour toutes à l'humanité. Jésus dit, à ceci, nous tous reconnaîtrons que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres. Cela nous aide à ne pas désespérer. Face à tout ce qui pourrait détruire notre confiance en Dieu et l'humanité, par notre foi en Jésus-Christ, nous sommes introduits dans l'expérience que Jésus avait du Père. Et nous sommes introduits dans une nouvelle proximité avec Dieu et les autres. Car l'amour que Jésus donne comme un nouveau commandement, ce n'est pas un sentiment quelconque. Il s'étend aux proches et aux lointains, aux amis et aussi à ceux ou celles que nous aurions identifiés à tort ou à raison comme nos ennemis. Cet amour nous demande à changer notre regard sur le monde, sur notre communauté, sur notre famille. Cet amour est, à vrai dire, un apprentissage. Apprendre à voir et à aimer les autres comme Dieu les aime, aussi dans leur faiblesse, et même jusque dans le mal qu'ils font et qui réclame miséricorde et pardon, et qui inspire au moins et à la limite notre prière pour qu'ils se convertissent. Un ciel nouveau, une terre nouvelle, un Dieu qui demeure avec nous, qui fait toutes choses nouvelles. C'est une grande espérance et nous en avons besoin plus que jamais dans nos angoisses, dans l'épouvante d'une guerre brutale devant notre porte. Nous en avons besoin quand la maison brûle. Mais Dieu ne détruit pas ses ennemis. Il ne prend pas vengeance en faveur des victimes. Mais il essuiera toute larme de leurs yeux. Cette intervention de Dieu passe par notre amour. Et ainsi nous pouvons aider Dieu à montrer sa présence. Etty Hillesum, une auteure juive néerlandaise, assassinée à Auschwitz en 1943, s'adresse une fois à Dieu en pleine guerre dans une prière, et je vous cite quelques phrases. « Mon Dieu, ce n'est pas toi qui peux nous aider, mais nous qui pouvons t'aider. » C'est tout ce qu'il nous est possible de sauver en cette époque. C'est aussi la seule chose qui compte. Un peu de toi en nous, mon Dieu. Peut-être pourrons-nous aussi contribuer à te mettre au jour dans les cœurs martyrisés des autres. Peut-être pourrons-nous aussi contribuer à te mettre au jour dans les cœurs martyrisés des autres.